Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Les États-Unis et l'Iran engagés dans un bras de fer à l'ONU. Le président iranien Hassan Rouhani refuse de renégocier l'accord sur le nucléaire que Donald Trump veut remettre en cause. Dans un instant, nous retrouverons Grégory Phillips à New York. En Espagne, la Guardia Civile arrête plusieurs hauts responsables du gouvernement catalan. Objectif, empêcher le référendum d'autodétermination. Des milliers d'indépendantistes sont descendus dans la rue pour manifester leur colère. Reportage de Sébastien Berriot à Gérone. En France, le gouvernement présente ses mesures pour relancer la construction de logements. Déduction fiscale, gel des normes, mais toujours la baisse des APL qui est maintenue. Nous en parlerons avec notre invité, l'économiste Pierre Madec de l'OFCE. L'Assemblée générale de l'ONU a été dominée aujourd'hui par le discours du président iranien Hassan Rouhani. Hier, Donald Trump avait violemment mis en cause l'Iran, qualifié d'État voyou et de dictature corrompue. Le président américain, qui se réserve le droit de remettre en cause l'accord sur le nucléaire iranien négocié par son prédécesseur Barack Obama. Cet après-midi, Hassan Rouhani lui a répondu calmement mais fermement pour défendre l'accord. On retrouve à New York Grégory Phillips.
Quand Hassan Rouhani prend la parole tout à l'heure à la tribune des Nations Unies, c'est avec un ton extrêmement mesuré. Le président de la République islamique commence par vanter les vertus de la modération, manière toute persane de dire ce qu'il a pensé du discours de Trump. Puis Rouhani se fait plus mordant, nous réagirons avec détermination si cet accord qui nous lie est détruit.
Il serait très regrettable que cet accord soit bafoué par des voyous qui viennent d'arriver sur la scène internationale en violant ses engagements internationaux, la nouvelle administration américaine ne fait que détruire sa propre crédibilité.
Les États-Unis vont-ils déchirer cet accord sur le nucléaire iranien? Eh bien, une seule personne le sait, et cette personne, c'est Donald Trump, puisqu'il y a des journalistes qui le pressent cette question tout à l'heure. Il a répondu que sa décision était prise, mais qu'il attendait encore pour l'annoncer. Le président américain avait créé le même suspense, la même attente, quelques jours avant de dévoiler son choix sur les accords de Paris sur le climat.
Grégory Phillips, merci. La France, signataire de l'accord sur le nucléaire iranien, continue à défendre le texte. C'est un bon accord, a dit Emmanuel Macron aujourd'hui, mais le président français propose d'y ajouter, je cite, deux ou trois autres piliers. Il s'agirait notamment d'inclure un meilleur contrôle des missiles et des activités balistiques de l'Iran. Emmanuel Macron, qui n'a pas hésité à qualifier de génocide la répression contre les Rohingyas en Birmanie, interrogé à New York par un journaliste de l'émission Quotidien sur TMC, le chef de l'État a évoqué un génocide en cours, une purification ethnique que les Nations Unies doivent condamner. Depuis la fin août, plus de 400 000 musulmans Rohingyas ont fui au Bangladesh pour échapper à l'armée birmane. Le pouvoir birman affirme, lui, lutter contre la rébellion Rohingya qui a attaqué plusieurs postes frontières cet été en Birmanie. En Espagne, les tensions entre Madrid et les indépendantistes catalans ont pris une inquiétante tournure aujourd'hui. La Guardia Civile, la police espagnole donc, a arrêté ce matin 14 membres du gouvernement régional de Catalogne, avec toujours le même objectif, empêcher le référendum d'autodétermination prévu le 1er octobre prochain. Consultation jugée illégale par le pouvoir central, la Guardia Civile a saisi près de 10 millions de bulletins de vote destinés au référendum. Sébastien Berriot, vous étiez aujourd'hui à Gérone, une ville de 100 000 habitants qui est le fief du leader séparatiste Carles Puigdemont. La maire de Gérone, Marta Madrena, soutient le référendum. Elle était convoquée aujourd'hui par la justice espagnole et s'est accompagnée de plusieurs milliers de partisans qu'elle s'est rendue au tribunal. On écoute votre reportage, Sébastien.
Nous voulons voter, nous n'avons pas peur. C'est avec ces slogans que plusieurs milliers d'indépendantistes ont traversé le centre-ville de Gérone et accompagné leur maire jusqu'à la porte du tribunal.
Nous croyons que c'est notre droit de voter et de décider qu'est-ce que notre pays peut être.
Dans la manifestation, tout le monde commente les perquisitions de la matinée à Barcelone et à chaque fois, c'est le mot « répression » qui revient.
Tout ce qui passe en ce moment, c'est le même qui passait avec Franco. C'était triste.
C'est une façon d'un coup d'État, dans une autre façon plus souple, plus douce.
D'autres maires de la province sont également venus pour soutenir leurs collègues de Gérone, comme Astrid Dessé à la tête de la commune d'Anglès.
Pour nous, c'est très dur. Nous avons la sensation d'être sous une dictature, pas une démocratie. Nous nous sentons jugés que pour le fait de vouloir mettre les urnes, quoi, pour laisser voter nos concitoyens. Quand nous nous sommes présentés comme maires, nous nous sommes engagés à laisser voter les gens. Donc nous ne pouvons pas maintenant faire le contraire. Voilà.
À sa sortie du bureau du procureur, la maire de Gérone, Marta Madrenas, fait un constat d'échec.
J'ai exprimé clairement que comme maire de Gérone, moi je suis au service de la démocratie. Mon devoir, c'est de veiller au respect des libertés individuelles et collectives. Lorsque j'ai expliqué ça au juge, il m'a interrompu pour me dire que si c'était ça mon argumentation, ça n'était pas pertinent. Et donc, je me suis arrêtée. Mais nous restons sur nos positions et nous sommes déterminés, évidemment. Nous voterons.
Les convocations de maires dans la province de Gérone, comme dans toute la Catalogne, doivent se poursuivre jusqu'à la date du référendum, le 1er octobre.
Sébastien Berriot, ce soir, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy demande aux indépendantistes catalans de renoncer à l'escalade avec Madrid. Au Mexique, l'espoir de retrouver des survivants après le puissant séisme d'hier soir s'amenuise d'heure en heure. Selon le dernier bilan, le tremblement de terre a fait au moins 225 morts dans toute la région de Mexico. Parmi ces victimes, il y a 21 enfants ensevelis sous leur école. C'est toute une population qui est mobilisée pour venir en aide aux sauveteurs dans les ruines des immeubles effondrés. Écoutez le témoignage de notre correspondante Emmanuelle Stills.
Là, je me trouve sur un pont qui surplombe l'un des périphériques de la ville de Mexico, le viaducto. Il y a environ 200 volontaires qui sont en train de récolter des vivres, du papier hygiénique, des bouteilles d'eau. On transporte aussi des médicaments dans des brouettes. Ils travaillent en coordination avec des militaires. Et puis, quand on traverse, on va de l'autre côté de ce pont, on aperçoit une zone où il y a énormément de sauveteurs. On va demander à l'une des policières ce qui s'est passé ici. Que fue es un edificio que se cayó? C'est un immeuble qui est tombé ici.
Es un edificio habitacional.
De varias plantas. C'est un immeuble d'appartements, elle nous dit. Donc, c'est un immeuble de 6 étages. Han encontrado víctimas.
Se han encontrado víctimas. Hasta el momento no se sabe cuántas.
Ok, muchas gracias. Donc, elle nous explique que jusqu'à présent, on n'a trouvé que des victimes mortelles, pas encore de survivants à cet endroit. Et on ne sait pas encore exactement combien de victimes il y aurait. On aperçoit environ 500 sauveteurs qui travaillent dans cette zone. On aperçoit également deux grues, on entend des marteaux piqueurs. Il y a plusieurs camions, plusieurs ambulances. C'est un petit peu la situation dans plusieurs endroits de la ville où des immeubles se sont effondrés sur les habitants. Il y a également, bien sûr, cette école dans le sud de la ville où une trentaine de personnes auraient perdu la vie, dont beaucoup d'enfants.
Le témoignage d'Emmanuel Stills, correspondante à Mexico. En France, le gouvernement veut créer un choc de l'offre pour résoudre la crise du logement. Une feuille de route a été dévoilée aujourd'hui par le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. L'objectif est de relancer la construction pour à terme aboutir à une abondance de biens immobiliers, abondance qui fera baisser les loyers. Alors comment ? Élément de réponse avec vous, Guillaume Gaven.
Il s'agit d'abord de libérer du foncier, là où on en a besoin bien évidemment. Ainsi, la vente de terrains constructibles bénéficiera d'un abattement fiscal exceptionnel sur les plus-values, jusqu'à 100% si l'on construit du logement social, 70% pour du logement privé. Le dispositif sera valable pour toute vente conclue avant la fin 2020. Quant aux prêts à taux zéro et au dispositif Pinel, l'horizon s'élargit un peu, les dispositifs sont reconduits, non pas d'année en année, mais pour les 4 ans à venir, jusqu'à la fin 2021 donc. En contrepartie, ils seront eux aussi davantage ciblés sur les zones en tension. Pour construire plus, il faudra aussi aller plus vite. La délivrance d'un permis de construire peut parfois ressembler à un parcours du combattant. Les normes techniques seront simplifiées et les recours contre ces permis seront limités. En tout cas, les amendes en cas de recours abusif seront augmentées. Car, rappelle le gouvernement, chaque année, plus de 30 000 projets immobiliers sont ainsi tués dans l'œuf.
Guillaume Gaven, merci. Un invité dans ce journal, Pierre Madec, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre Madec, peut-on parler d'un plan efficace pour relancer la construction de logements en France ?
On aurait pu s'attendre à une réforme plus en profondeur de notamment la fiscalité immobilière, de ce qu'est la fiscalité immobilière aujourd'hui en France. C'est une fiscalité qui incite fortement à la rétention et à la détention à la fois de logements et de fonciers. Le diagnostic du gouvernement est bon en disant ce qui nous manque, c'est du foncier disponible en zone très tendue, là où les prix sont très élevés. En effet, c'est ce qui manque. Après, les solutions qui sont proposées pour libérer ce foncier sont selon moi en tout cas insuffisantes, parce qu'on propose des réformes un peu paramétriques, avec des systèmes d'abattement fiscaux, alors qu'il y a une vraie remise à plat de la fiscalité immobilière qui doit être engagée.
Alors justement, si l'on rentre dans le détail, ces fameux abattements fiscaux pour inciter les propriétaires à vendre les terrains constructibles, est-ce que déjà ça concerne beaucoup de monde ?
Alors en effet, il y a du foncier de disponible en zone tendue, notamment on peut penser à la petite couronne parisienne. Il faut voir que ce foncier, il n'est pas uniquement privé, il est aussi public.
Et là, il y a de la spéculation, il y a des gens qui retiennent leur terrain, qui ne les mettent pas sur le marché.
Alors une fois de plus, il y a une spéculation foncière du fait d'une fiscalité qui incite à la rétention. Typiquement, si on prend juste un exemple qui est la taxation des plus-values, sur laquelle le gouvernement revient en partie avec ses systèmes d'abattement qui sont très importants sur les plus-values.
Jusqu'à 100%.
Voilà, actuellement, on a un système de taxation des plus-values qui incite à détenir votre bien le plus longtemps possible. C'est-à-dire que plus vous allez retenir votre foncier ou votre logement, même inoccupé, tant que vous n'allez pas le mettre sur le marché, plus vous allez attendre longtemps, moins vous allez être taxé. Dans une situation où en zone tendue, on a besoin à la fois de foncier et de logement, il faudrait revenir sur cette logique et plutôt accroître la taxation pour ceux qui détiennent ou font de la rétention de foncier. Le gouvernement s'est pas engagé à entamer cette réforme, mais une fois de plus met en place des mesures qu'on pourrait juger paramétriques et temporaires sans s'attaquer au problème de fond qui est le problème de la fiscalité immobilière.
Donc ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui incite alors qu'il vaudrait peut-être mieux taxer.
Alors le problème, c'est quand on dit ça, c'est compliqué politiquement de vendre une taxe. Notamment quand vous avez 60% de propriétaires occupants, dire qu'on va augmenter la taxation sur la détention de biens immobiliers, c'est compliqué. Après, il y a des solutions simples qui existent, notamment pour exonérer de ce nouveau système de taxation les propriétés, ce qu'on appelle les résidences principales, c'est-à-dire les résidences qui accueillent des ménages tout au long de l'année. On pourrait concentrer cette nouvelle fiscalité sur les logements vacants, les terrains à bâtir, les résidences secondaires en zone tendue. Faut voir qu'à Paris, par exemple, un phénomène très très large et qui cesse d'augmenter, ce qu'on appelle la double résidence, et qui concerne principalement des ménages retraités.
C'est-à-dire double résidence ?
C'est-à-dire que vous avez un logement à Paris où vous êtes une partie de l'année, mais vous avez aussi un autre logement où vous êtes une partie de l'année, et identifier votre résidence principale est en fait assez compliqué, et ça c'est des mécanismes qui ont plutôt tendance à croître. Mais ça c'est des réformes un peu plus de fond. On aurait pu penser que le gouvernement les engage, ça n'a pas été le cas, là on est plutôt dans des mesures d'urgence. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est non pas les mesures donc qui ont été proposées en termes d'offres, c'est plus les mesures de demande. Et ce qui est, autant les mesures d'offres sont pas révolutionnaires, le président de la République a, je crois, écrit un livre qui s'appelle Révolution, on n'est pas sur des mesures révolutionnaires. Par contre, la révolution, elle vient de l'importance des coupes budgétaires qui sont faites sur la solvabilisation des ménages les plus modestes, c'est-à-dire les APL, les aides à la personne, où le gouvernement n'est pas revenu sur la mesure qui était annoncée en juillet de baisse de 5 euros des APL, et pas non plus revenu, ou en tout cas a officialisé la mesure qui courait ces derniers temps de baisse importante, 1,4 milliard d'euros des APL dans le parc social. Ça, c'est très inquiétant.
Donc, selon vous, on ne résoudra pas la crise du logement si on n'aide pas les ménages les plus modestes et notamment ceux qui sont directement concernés par la baisse des APL.
Le vrai problème, c'est un problème de temporalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas annoncer des mesures d'offres à très long terme qui seraient le pendant de mesures de restriction budgétaire à très court terme. C'est-à-dire que là, à très court terme, dès le 1er octobre, les ménages les plus modestes, parce que les APL sont concentrés sur les ménages les plus modestes verront leurs conditions de vie diminuer, qu'ils soient dans le parc privé ou dans le parc social. Ça, c'est un vrai problème. Et on résout pas ce problème en promettant ou en mettant en place des mesures qui visent à produire des logements abordables et à faire baisser les prix immobiliers et donc les loyers à l'horizon du temps de construction, c'est-à-dire 3, 4 ans, 5 ans, en sachant qu'en 3, 4 ans, 5 ans, on n'aura pas produit assez de logements pour qu'il y ait un effet notable sur les prix immobiliers et sur les loyers. Donc, quelle que soit la solution, on ne voit pas bien comment l'équation peut se résoudre. On y verra peut-être plus clair avec le projet de loi de finances qui sera présenté d'ici peu.
Pierre Madec, économiste à l'OFCE, merci d'avoir été l'invité de France Culture. sur ce soir. Un mot de politique et le conflit au sein du Front National qui prend de l'ampleur. Marine Le Pen retire à Florian Philippot une partie de ses responsabilités, en l'occurrence son portefeuille de la stratégie et de la communication du parti. Mais Florian Philippot reste vice-président du FN. Florian Philippot qui est sanctionné pour avoir refusé de quitter la tête de son association Les Patriotes. La météo demain, temps globalement ensoleillé, mais une dégradation pluvieuse arrive par l'ouest. Température maximale en hausse, 17 à 23 sur la moitié nord, 19 à 27 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.